Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Tout de suite, le sommaire. 11 miliciens neutralisés, 5 capturés, 2 armes récupérées. C'était lors des opérations militaires menées par les FARDC hier et ce dimanche à Kigali et Karuruma dans le territoire de Beni. L'armée appelle la population au calme. Province de l'Équateur. Après plusieurs mois de tensions entre le gouvernement et l'Assemblée provinciale, les deux institutions décident de fumer le calumet de la paix, ce au nom de la stabilisation des institutions provinciales prônées par le chef de l'État. Les bases ont été posées vendredi lors d'une cérémonie d'échange des vœux à Mbandaka. Et puis, plus que quelques heures pour le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes-Cameroun 2021. Invité de ce journal, l'entraîneur Guillaume Ilunga, instructeur FIFA-CAF, nous parle notamment des difficultés rencontrées pour organiser cette compétition. Il nous parle aussi de l'absence de la RDC à cette fête africaine. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. 11 miliciens Maïma du groupe Mazembe ont été neutralisés, 5 capturés et 2 armes récupérées. C'était lors des opérations militaires menées par les FARDC contre cette milice, respectivement samedi et aujourd'hui dans le village Kigali et Karuruma de la chefferie Bachou dans le territoire de Beni. L'armée qui a livré ces chiffres rassure que pour le moment, tous ces villages sont sous son contrôle et appelle la population au calme. Plus de détails avec Guilhem Kassassia.
Les premiers affrontements ont lieu samedi entre les éléments commandos du 33e bataillon et des miliciens Maïmaï au village Kigali dans le groupement Vuovi en chefferie de Bachou. Lors de ces combats, l'armée a neutralisé 6 combattants Maïmaï et capturé 4 autres. Un autre milicien a été grièvement blessé alors qu'un militaire est tombé. Selon l'armée qui livre des informations, après interrogatoire, les miliciens capturés ont révélé que la multiplicité de groupes armés dans cette zone a un double objectif. D'abord, mener des actions dans les buts de régler les comptes dans des conflits fossiles qui se multiplient dans cette partie du territoire de Beni. Ensuite, renforcer les rangs des EDF pour mettre les bâtons dans les roues de l'armée congolaise dans les Bachou. En outre, dans la localité de Karuruma, 5 combattants Maïmaï ont été neutralisés la nuit dernière. Les militaires du 31e bataillon des réactions rapides qui ont mené ces opérations contre des miliciens sur place ont ensuite récupéré 2 armes de type AK-47 et capturé un milicien du groupe Mazembe. Pour l'instant, l'armée rassure que ces deux villages sont sous contrôle et qu'un calme y règne. Beni, Gulen Kassassia, Radio Kapi.
Par ailleurs, dans le Massissi, toujours au nord Kivu, une attaque d'hommes armés, non autrement identifiée, a été signalée vendredi dans la soirée, non loin de la ferme de Bougnolé, entre Mouchaki et le village Kadirisha, dans le groupement Matanda. Information confirmée par le porte-parole des opérations Sokola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, qui a fait une descente sur terrain hier, dresse un bilan d'au moins 5 rebelles capturés et quelques armes et munitions saisies par les FARDC. Bernardine Diambou nous en dit plus.
Le bilan de cette attaque fait état de 5 capturés et c'est grâce à la collaboration de la population et des services de sécurité qui ont vite alerté les éléments des FARDC basés dans la zone. Quelques armes aussi ont été saisies, dont 6 armes AK-47, 2 armes type RPG-7 et une lance grenade type policier, 13 Motorola pimpant 9 et 12 chargeurs, mais aussi un bon nombre de munitions et d'autres effets militaires tels que des panneaux solaires et batteries. Toujours selon le porte-parole Sokola 2, l'une des personnes capturées, les chefs de bande interrogés, n'a pas voulu se prononcer sur l'identité de leur mouvement. Toutefois, c'est hors la loi à révéler que la motivation de leur incursion n'est rien d'autre que la balkanisation de la RDC. D'autres sources, par contre, disent que ces hommes seraient de l'ex-mouvement M23. Le porte-parole de Sokola 2 dit que l'armée loyaliste intensifie les opérations de traque des autres hommes armés éparpillés dans la zone. C'est notamment à Bihambwe, Mouchaki et Rubaya. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
La population de l'Ituri demande au gouvernement et à ses partenaires de mettre les moyens financiers nécessaires pour la réussite du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation dont les activités ont été lancées officiellement vendredi à Bunia. Certains habitants approchés estiment que les précédents programmes de désarmement et démobilisation avaient échoué à cause du manque de volonté politique pour soutenir les efforts de sensibilisation des groupes armés menés sur le terrain. D'autres, par contre, exhortent les Ituriens à saisir cette opportunité
pour permettre à cette province de retrouver la paix après plusieurs décennies d'instabilité. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Ses habitants se sont exprimés à l'issue de l'atelier de réflexion sur la compréhension et la mise en œuvre du programme de DLCS qui a été organisé par l'ONG ACR à Bounia. La majorité des participants ont insisté pour que le gouvernement fasse preuve de sérieux dans la mise en œuvre des projets qui seront exécutés dans le cadre du relèvement communautaire. Christine Abedito est actrice de développement.
Il y a eu même les émissaires du président de la République qui étaient venus ici. Ils ont fait un travail bien même apprécié par la population. Mais arrivé à un certain moment donné, il y avait un problème de l'argent. Que ces projets ne souffraient pas des soucis financiers.
Pour sa part, Christian Chiaou, qui encadre un groupe de jeunes, estime que tant que les Ituriens ne vont pas jouer franc jeu, il sera difficile de mettre fin aux violences qui endeuillent cette province.
Si cette fois-là, toutes les communautés désarment leur cœur, qu'on se dise la vérité en face, je pense que ça va plus aider pourvu que nous ayons la paix. Et surtout, nous sommes déjà fatigués par les atrocités.
D'autres personnes souhaitent la poursuite des opérations militaires afin de contraindre les réfractaires au processus à déposer les armes. Pendant ce temps, le coordonnateur national du programme de DLCS annonce dans les prochains jours la nomination des animateurs qui vont piloter ce programme dans la province de l'Ituri. Bounia, Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi.
Retour au nord Kivu, la MONUSCO finance la construction d'un pont qui va relier la ville de Butembo à la chefferie de Bachou et dont les travaux ont été officiellement lancés le 30 décembre dernier. Il s'agit du pont Vulindi, d'une très grande importance sécuritaire et économique dans la ville de Butembo. L'ancienne infrastructure érigée à cet endroit était vétuste et sérieusement menacée par des têtes d'érosion. Sadiki Aboubakar signe ce reportage.
Le nouveau pont facilitera les interventions militaires dans le groupement Malio à partir de Butembo et le ravitaillement de la ville en produits vivriers. D'après Zawadi Bisomeko de l'ONG SAFDEF qui exécute le projet, le coût total des travaux est évalué à un peu plus de 187 000 dollars américains.
Et le partenaire financier qui est la MONUSCO a accordé 132 852 dollars. Maintenant, la contribution locale, elle est évaluée à 54 721 dollars. Cette part contient tous ces travaux-là de terrassement, l'aménagement des chemins de déviation pendant la construction du pont.
L'actuel pont est en cours de démolition avant la construction de la nouvelle. C'est ce qu'explique Alain Mouliro, ingénieur en chef.
Nous commençons d'abord par la démolition de l'acier pont. Après, nous allons foisonner la terre qui est de l'autre côté pour trouver maintenant l'espace où nous allons mettre les déquilés de part et d'autre de la rivière. Et en amont, nous allons dévier d'abord la rivière avant les ponts. Et après, maintenant, la construction, nous allons remettre la route et recharger une partie pour mettre la rampe d'accès du pont.
La ville de Butembo est ravitaillée en produits vivriers par le groupement Malio, actuellement en proie à l'activisme des groupes armés. Butembo, Sadiki Aboubakar, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, à l'Équateur, c'est désormais l'ère de la bonne collaboration. Les bases ont été posées vendredi à l'occasion de l'échange des vœux de nouvel an entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale ainsi que les services étatiques. Au nom de la stabilisation des institutions provinciales recommandées par le chef de l'État, le gouverneur de l'Équateur et la présidente de l'organe délibérant ont recommandé à leurs membres une franche collaboration en vue du décollage de la province. Les animateurs des deux institutions ont aussi invité les fils et filles de l'Équateur à l'unité, le point avec Paul-Richard Malengela.
Après une longue brouille à l'Équateur, les animateurs des institutions politiques ont décidé de fumer le calumet de la paix. C'est au regard de la stabilisation des institutions provinciales édictée par le chef de l'État, mais aussi pour l'harmonie sociale et le décollage économique de la province, a indiqué la présidente de l'Assemblée provinciale, Marie-Josée Molebo.
J'avais profité pour inviter ma population, dire aussi à tous les animateurs, pour qu'il y ait paix des institutions de l'Équateur, il faut que les animateurs des institutions qui composent la province se mettent ensemble. Quand les députés provinciaux sont informés de tout ce qui se fait à l'Équateur, notre province va bien gérer les affaires de l'État.
Cette initiative conjointe du gouverneur de province avec la présidente du nouveau bureau de l'organe délibérant a été également saluée par l'exécutif provincial. Ce qu'a souligné le ministre provincial de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement, Papi Ekaté.
Nous espérons que cette collaboration entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial donne l'espoir que l'Équateur pourra décoller durant cette année 2022.
Rappelons que depuis juillet dernier à l'Équateur, une crise de confiance a sévi entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Bandaka pour Chamalingué, la Radio Okapi.
Direction le Kasaï central, à Kananga précisément, 7 centres hospitaliers ont bénéficié des lits d'hospitalisation de la Fondation Sokam. Il s'agit entre autres du centre de santé de Kamulumba, de Tubuluku et de Ndesha. D'après le coordonnateur de la Fondation, ce geste a été posé pour pallier aux besoins et demandes des outils pour bien prendre soin des malades. Emery Mbanchi, coordonnateur de la Fondation Sokam, l'a dit à François Kadima.
On avait retenu l'hôpital général de Kananga, on avait retenu les cliniques universitaires, on avait retenu les centres de santé de Kamulumba, on avait retenu les centres de santé de Tubuluku, on avait retenu l'hôpital d'État de Ndesha, on avait retenu les centres d'État de Bianki, plus la Compassion. Voici les sites qui ont fait l'objet d'une évaluation avec des spécialistes et nous avons retenu ces centres. La Fondation Sokam, c'est une as belle. La Fondation Sokam, c'est une association philanthropique qui n'a pas un objectif, qui n'a pas de l'argent à distribuer aux gens. Nous n'avons signé aucun contrat avec qui que ce soit. Un retour est imminent. Je vais revenir, c'est pour d'autres actions.
Ici à Kinshasa, c'est la fondation Kabea Mardoché Fokam qui a fait un don au centre médical mixte Anemi SS Mabanga de Yolo, commune de Kalamu, dont Rémi hier constitué des vivres et non-vivres. C'est dans le but de soulager des malades hospitalisés, mais aussi ceux des environs qui sont sans abri et manquent de quoi se payer les soins. Des détails dans ce reportage de Priscilla Badjoko Babissa, rendu ici par Richard Junior Kamunga.
Dans sa gibecière, Fokam a apporté quelques biens de première nécessité, notamment du riz, du sucre et une enveloppe à chaque nécessité. Pour le secrétaire général de la Fondation, il s'agit d'un geste de soutien moral aux vulnérables, Michel Oda.
Il se fait que nous avons constaté qu'il y a parmi les malades, nos frères anémiques, il y a de ceux-là qui sont abandonnés à leur triste sort, qui logent à même les sols, juste devant l'hôpital, et qui ne sont même pas pris en charge. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la Fondation KBA Mardoché s'est fixé comme objectif de répondre au cri d'alarme qui était lancé longuement par ces personnes. C'est un soutien moral, un réconfort vraiment, vraiment moral et financier que nous avons apporté à ces gens-là pour quand même les aider à se relever et à continuer de l'avant.
Soulagé par cet acte caritatif, l'une des bénéficiaires s'exprime.
L'initiative qu'ils ont prise pour nous soutenir, vraiment je suis content de ça. Que ça puisse pas s'arrêter ici, ça continue, parce que nous avons des enfants qui souffrent et il n'y a pas de moyens pour les aider.
Rappelons que la drépanocytose est la première maladie génétique au monde, une pathologie particulièrement douloureuse. Elle demeure cependant une maladie dite négligée, qui nécessite les soins appropriés et le dépistage de chaque couple avant le mariage.
En sport, vous le savez, le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes-Cameroun 2021 se donne dans quelques heures. De toutes les nations qualifiées, se dressent quelques favoris. Si les Fennec d'Algérie remplissent plusieurs critères pour rééditer l'exploit, il ne faut pas négliger cependant la présence des trois lions qui rôdent autour de lui et qui risquent de changer la situation. Nous citons les lions de la Teranga du Sénégal, les lions de l'Atlas du Maroc et les lions indomptables du Cameroun. Enoch Maton Donvuezolo nous parle de ses favoris.
Nous avons en premier lieu l'Algérie, invaincue depuis son précédent sacre avec 34 victoires sur 34 matchs livrés. Les Fennec ont remporté la Coupe arabe cette édition. L'Algérie fait office de grande favori à sa propre succession. Autre favori, le Sénégal, finaliste malheureux de la précédente édition. Les Lions n'ont pas montré une grande évolution après la CAN 2019, mais restent influents. Premier du continent au dernier classement FIFA, le Sénégal n'a perdu qu'un seul match, 3-1 contre le Maroc, bien qu'il a frôlé la catastrophe contre l'Eswatini, un but partout et le Togo sur le même score. Mané dépendant, le Sénégal risque d'avoir des difficultés avec les forfaits de Crépin Diata et l'incertitude autour du retour de Ismaïla Sarr. Accueillant l'édition présente, cet autre lion, pas de la Teranga, mais indomptable du Cameroun, se classe aussi parmi les favoris de cette édition depuis sa nomination suite à l'élimination en huitième de finale de la précédente CAN 3-2 contre le Nigeria. Le sélectionneur Tony Conseil a testé beaucoup de joueurs et a fini par trouver une formule intéressante, même si des progrès reste encore à faire. Sa récente qualification au barrage mondial Qatar 2022 a prouvé qu'il faudra aussi prendre au sérieux les Lions. Dernier favori, le Maroc, avec l'espoir que fait renaître le nouveau sélectionneur Walid Ali Sadik, juste après le fiasco de la dernière CAN suite à l'élimination par le Bénin.
Actualité internationale.
Des femmes vendues aux enchères, Cela se passe en Inde. Ce pays a été secoué cette semaine par une campagne islamophobe menée sur Internet. Des personnes ont créé une application où ils ont publié les photos des femmes musulmanes célèbres afin, disaient-ils, de les vendre aux enchères. La police a arrêté les premiers suspects, mais ce n'était pas une première et cela révèle la croissance de l'islamophobie dans le pays. L'application Boulibay présentait des photos, parfois retouchées et dégradantes, d'une centaine de femmes musulmanes et proposait de les vendre aux enchères. Aucune transaction n'a eu lieu avant qu'elle soit retirée d'Internet, l'objectif étant surtout d'humilier ces femmes musulmanes connues. Les profils comptaient en effet des militantes, avocates, une pilote de ligne ainsi que beaucoup de journalistes. Le Royaume-Uni devient le premier pays européen à dépasser la barre des 150 000 décès dus au Covid depuis le début de la pandémie. Au total, 200 militaires, dont 40 médecins, vont renforcer les effectifs des hôpitaux londoniens pendant 3 semaines. Des hôpitaux mis sous tension par l'augmentation du nombre des patients et surtout par les mises à l'isolement des soignants. Près de 5 000 d'entre eux sont absents, la plupart parce que atteints du Covid ou cas contact.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons l'entraîneur Guillaume Ilunga, instructeur FIFA CAF. Il nous parle de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes-Cameroun, dont le coup d'envoi sera donné aujourd'hui à partir de 17h au Cameroun. Le technicien congolais fait le tour des différents sujets. D'abord, les difficultés rencontrées pour l'organisation de cette Cannes, l'absence de la RDC en cette compétition et la réussite de cette fête africaine. L'entraîneur Guillaume Ilunga est avec Kanish Mukongo Fouani. Nikizi.
Coach Guillaume Ilunga, bonjour.
Oui, bonjour.
La Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021 débute cet après-midi au Cameroun. Dites-nous, en tant qu'instructeur FIFA CAF, comment vous vous sentez d'abord?
Bon, c'est la grande fête du football africain. C'est le sommet de toute compétition parce que là, c'est ce qui couronne les équipes qui ont fourni beaucoup de forces sur le plan continental. Je crois que c'est une grande fête pour nous, africains. Donc, nous devons suivre ça avec beaucoup d'attention. Et nous sommes vraiment confiants que ça sera une grande fête qui va vraiment refléter le vrai niveau du football africain parce que il y a aussi des talents africains qui évoluent partout au monde dans les 5 continents qui sont venus pour redonner de la valeur à notre football africain. C'est une grande fête. Voilà comment est-ce que nous avons accueilli la venue de la CAN qui débute demain.
Cette Coupe d'Afrique des Nations a connu beaucoup de menaces d'annulation de la part de la FIFA, de la part des clubs européens. Psychologiquement, vous pensez que les différentes délégations seront prêtes pour cette fête africaine?
Oui, vous savez, la préparation, elle est d'abord mentale. Chacun se prépare, il a d'abord sa conscience, la manière dont il s'est préparé, il vient, il veut me donner le meilleur de lui-même par rapport à sa nation. Vous pouvez jouer dans Chelsea, vous pouvez jouer dans Bayern, vous pouvez jouer partout, mais si vous ne donnez rien par rapport à votre nation, donc ça veut dire que vous travaillez en vain. Je crois que là, chacun est concentré pour venir donner et prouver qu'il est d'abord nationaliste pour donner le meilleur de sa nation. Voilà un peu. Tous ces joueurs-là seront prêts parce qu'ils sont mentalement forts. Nous avons eu à échanger avec certains qui sont conscients. Ils savent que nous devons prouver que nous sommes des grands à partir d'abord de notre continent.
Coach Guillaume, cette CAN va se dérouler sans la République démocratique du Congo. En tant que technicien, citoyen congolais, mentalement, comment vous vous sentez?
Non, c'est une désolation. Là, nous venons de récolter ce dont on a semé, l'improvisation, le désordre, le clientélisme. Là, Dieu aussi était correct. C'est une façon de nous remettre en question que nous devons revoir notre manière de gérer le football. Le football congolais était très haut en Afrique, mais le fait que nous-mêmes n'avons pas été conscients, capitalisés. Le rang que nous avions aujourd'hui, nous l'avons payé cash par rapport à nos erreurs. On a toujours dit reculer pour mieux sauter, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Je crois que nous devons tirer des leçons pour corriger. Et surtout, on est à l'étape, là, on est en train de revoir le texte et l'organisation de la fédération future. C'est maintenant que nous devons y penser et pourquoi pas y penser, projeter vers les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont se jouer en phase finale dans le mois de mars. Je crois que la République démocratique du Congo, notre absence est une interpellation venant de Dieu et de nous-mêmes. Nous devons mettre un peu du sérieux, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour que la RDC puisse récupérer sa place sur le territoire continental et mondial.
Coach Guillaume Ilunga, dites-nous, l'Algérie viendra pour défendre son titre. Entre-temps, nous avons le Sénégal qui est la première nation africaine au niveau du classement mondial de la FIFA, sans parler de l'Égypte, la Tunisie, le Cameroun, pays organisateur. Est-ce que les choses vont être faciles pour l'Algérie?
Les choses ne seront jamais faciles parce qu'en Afrique, il n'y a jamais eu de favoris, mais c'est une compétition qui a toujours réservé beaucoup de surprises. Vous pensez que l'Algérie est supérieure, vous pouvez penser que l'Égypte, vous pensez que le Sénégal, mais n'oubliez pas que le Cameroun évolue à domicile, n'oubliez pas que le Nigeria a aussi soif, la Côte d'Ivoire a aussi soif, le Mali a aussi soif, le Bénin, je crois qu'il y a beaucoup de nations là où il y a des jeunes qui ont beaucoup de talents, qui ont aussi envie de créer l'histoire. La Zambie est sortie championne, quand personne ne pouvait penser que la Zambie pourrait sortir championne. Je crois que l'Afrique a toujours été un continent avec beaucoup de surprises du point de vue compétition, mais qu'à cela ne tienne, que c'est l'équipe qui sera mieux outillée, c'est l'équipe qui sera championne, nous allons applaudir.
Cette CAN va se dérouler avec des innovations, même pas sur le plan technique, hein, sur le plan administratif, lorsqu'on regarde qu'on a un nouveau président de la Confédération africaine de football, mais en même temps, on a un président de la Fédération camerounaise de football qui est un joueur, Samuel Eto'o. Vous pensez peut-être que l'organisation sera différente par rapport à tout ce qui se passe d'habitude?
Oui, très grande différence, parce que vous savez, Eto'o, moi j'ai eu la grâce de vivre à ses côtés quand j'étais en stage à Barcelone de 2006 à 2008. Ça, c'est un monsieur méticuleux, il est très rigoureux, avec Motsepe, qui est un grand... D'ailleurs, c'est le président de ma mélodie tendance, parce que là, maintenant, c'est le football marketing, c'est le football business, c'est le football promotionnel. Je crois que là, nous devons tourner une page de tout ce qui était négatif. Samuel Eto'o sera d'un très grand apport au Cameroun, parce qu'il va apporter sa touche. De ce que lui-même a vécu sur le terrain, je crois que c'est cette lancée-là que nous devons revoir, même au niveau de notre football, même au niveau de la fédération. Je crois que cette fois-ci, vous verrez même la différence, parce que ceux qui sont en train de gérer, ce sont des hommes de terrain qui ont un vécu, qui veulent apporter beaucoup plus. Le football manager, que la CAF vende son football comme l'UEFA est en train de le vendre avec le championnat.
Coach Guillaume Ilunga, un dernier message.
Le message que l'Afrique gagne, soyons solidaires, donnons le plaisir à tous les Africains pour que le football soit grand, parce que le football est un élément fédérateur, est un élément d'union, que le football fasse taire les armes, que l'unité règne, que la paix règne partout en Afrique au travers de cette CAN.
Coach Guillaume Ilunga, je vous dis merci.
Je vous remercie, j'en profite pour vous souhaiter aussi le meilleur vœu à tous les sportifs.
L'instructeur FIFA CAF était avec Kanish Mukongo Fonikizi. C'est la fin de ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga, supervision de Ben Kabamba. Polydor Basunga était à la mise en onde et devant ce micro, Belinda Bousouma. Merci de votre attention.